Radio Capi, Grand Témoin. Grand Témoin reçoit Chantal Kanyimbo Manyanga, présidente de l'Union nationale de la presse congolaise et journaliste à la Radio-Télévision nationale congolaise. Après vos études à l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI, actuel IFASIC, vous commencez comme speakerine et présentatrice à la télévision nationale.
Bon, je corrige, pas après. Je suis rentrée à la RTNC, aux EDRT à l'époque.
Pendant que j'étais encore
étudiante, en deuxième année des graduats, il y avait un concours qui avait été organisé. C'est un concours de recrutement de speakerin et j'avais estimé que c'était intéressant pour moi de rentrer déjà dans le métier de l'audiovisuel tout en continuant mes études. Donc, je suis rentrée à l'OZRT. J'étais encore étudiante en deuxième année des graduats. Je me disais, il faut absolument que je termine mes études, que je décroche mon diplôme parce que je ne me destinais pas à rester speakerin. Je me destinais au métier de journalisme et donc il me fallait absolument terminer mes études. Et dès que ça a été fait, j'avais demandé mon affectation à la direction des informations TV depuis 90 jusqu'à maintenant.
Voilà, exactement. Ce n'est que 10 ans après, en 90, que vous commencez à présenter les journaux télévisés et l'émission de son de cloche qui vous a rendu très célèbre.
Oui, j'ai commencé l'émission de son de cloche le 6 septembre 94. En fait, le contexte de l'époque disposait à ça, parce que c'était la conférence nationale souveraine. On demandait l'ouverture des médias d'État, des médias publics à l'expression de toutes les opinions. Et le ministre de l'époque, le ministre de l'Information, c'était M. Masséga Biyo. Comme il avait reçu instruction du gouvernement qui était instruit par le Parlement des Transitions de l'époque d'ouvrir les médias, et il m'a été demandé de réfléchir sur une émission qui, permettrait l'ouverture des médias, l'expression de toutes les opinions publiques. J'avais réfléchi au concept de débat contradictoire et les noms de l'émission de son de cloche étaient sortis d'une discussion que j'avais avec mes amis, entre autres Nzila Fana, à qui je disais en fait, il me fallait trouver l'intitulé de l'émission qui exprimerait le débat contradictoire. Un débat de son de cloche, on voudrait entendre deux sons de cloche sur un sujet d'actualité donné, et puis Nzila m'avait dit, mais voilà, tu as trouvé le nom de ton émission, c'est ça, deux sons de cloche, et voilà.
Parlant de Nzila Fana, vous avez aussi présenté des émissions sportives.
Oui, exact.
Lesquelles?
Non, Prolongation, Sport Mania, voilà.
Et ça a été facile pour une femme de présenter des émissions sportives à l'époque?
Moi j'aimais ça. J'aime beaucoup les sports. Je me rendais dans les stades pour suivre les matchs de football, pour suivre les matchs de basket. J'ai suivi l'actualité sportive, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, ça ne posait pas de problème pour moi pour faire le journalisme sportif. À l'époque, ça m'intéressait beaucoup, il n'y avait pas de problème.
Nous allons joindre quelqu'un pour vous. Bonjour, monsieur Kibambi.
Bonjour.
Vous avez travaillé ensemble avec Chantal Kanyimbo à la télévision nationale, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Pouvez-vous nous raconter quelques souvenirs vécus ensemble?
Je vous dirai d'abord, le premier souvenir, c'est la rencontre avec Chantal, rencontre professionnelle. C'est lorsqu'elle faisait ses adieux au téléspicage pour embrasser le journalisme. Elle était venue très modestement me demander de l'encadrer et elle avait donc sa licence en poche. Il fallait passer à la pratique. Je lui ai donné quelques conditions à caractère moral auxquelles elle a satisfait pleinement. Et voilà, on était parti pour un encadrement. Et d'ailleurs, un peu plus tard, on formera le tandem du journal du dimanche. De ce couple, on n'a pas encore fini de parler, je crois, jusqu'à ce jour.
Elle est très d'accord, hein. Elle a hoché la tête et elle sourit également. Réaction Chantal Kanyimbo.
Oui, c'est vrai. On a passé des très bons moments avec Kibambi. Et c'est dommage qu'il nous ait quittés, mais enfin, c'est pas sa faute. Mais moi, je voudrais vous raconter juste une anecdote.
Oui.
Bon, il était mon chef, il était directeur des infos. On présentait le journal du dimanche. En fait, moi, je faisais chef d'édition, secrétaire des rédactions. Et donc, j'assumais pleinement mes responsabilités. Et je ne me gênais pas de dire à mon directeur quand il arrivait en retard ou quand il voulait bousculer le conducteur, qu'il n'avait pas le droit, que le conducteur, c'était comme ça. Et il disait, je suis des chefs et je fais ce que je veux. Voilà.
Monsieur Kibambi, Jean-Pierre Kibambi Chintoa, je rappelle que vous êtes directeur de Tropicana TV aujourd'hui. Quelle image vous avez gardée de Chantal Kanyimbo?
Mais l'image que je gardais de Chantal, c'est que, en fait, elle et moi, il y a quelque chose qu'on a eu en commun. On avait un amour à ce point fort pour ce métier qu'on était prêt à mourir pour lui, justement. Et Chantal, je crois que je passais avec elle toutes les journées, sauf dimanche, parce qu'on devait se rencontrer le soir pour le journal télévisé, ce qui a d'ailleurs fait jaser, mais vous savez, nous, c'était pas ça l'important. Nous avons démontré une chose, qu'on pouvait développer de relations hiérarchique, amical et professionnel, sans déborder sur quoi que ce soit. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Chantal a de la peine à m'appeler Jean-Pierre. Et après, je dois corriger après. C'est très, très fort.
Alors, pour mettre un peu plus de bonne humeur à cet entretien, pouvez-vous lui proposer une chanson?
Ah ben, je lui propose une chanson, je ne sais pas si vous l'aurez. Je lui proposerai, puisqu'elle est prête à mourir pour cette profession, moi aussi, mourir sur scène de Dalida.
Non, c'est cette chanson. Monsieur Kibambi, c'est cette chanson?
Tout à fait, c'est cette chanson qui passe. Et d'ailleurs, dans ma voiture, je me souviens qu'elle écoutait avec bonheur cette chanson. Exactement. Elle l'aimait bien.
Alors, restez avec nous pendant que nous suivons la chanson.
Je ne viens pas, non, je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je vais choisir ma mort aussi. Il y a celle qui va mourir un jour. Et l'autre en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans la nuit, sans qu'ils n'ont dans leur sommeil. Moi, je veux mourir seul.
Jean-Pierre Kibambi Chintoa, je vous assure que Chantal Kanimbo est en train d'être balancée, de se laisser balancer par la douce mélodie. Chantal, cette chanson vous inspire quelque chose?
Beaucoup de souvenirs, c'est vrai. Effectivement, Kibambi m'a appris à aimer Dalida. Il aimait beaucoup Dalida. Il écoutait continuellement dans sa voiture la musique des Dalida. Et ça me rappelle des bons moments quand on partait prendre des contacts avec des invités pour le journal du dimanche. On passait des très bons moments amicaux et professionnels, et je peux dire que je suis très fière d'être passée entre les mains de Jean-Pierre Kibambi.
Radio Capi, grand témoin.
Le professeur Alphonse Ntumbaluaba Lumu, coordonnateur de l'unité d'exécution du PNDDR, ex-CONADER, est l'invité de grand témoin de ce jour. Nous lui disons merci d'être venu. Alphonse Mtumba Luaba, vous avez occupé plusieurs fonctions politiques dans le passé. Nous allons en relever quelques-unes. D'août 2000 à avril 2001, vous avez été vice-ministre. C'était dans quel ministère et en quoi consistait votre travail?
C'était Soumzé, j'ai été vice-ministre de la justice et affaires parlementaires. Mon travail consistait à seconder le ministre de la justice, mais j'avais particulièrement la gestion des affaires parlementaires, des relations avec la CLPT, mais aussi le contentieux international, parce que les débuts de tout notre contentieux avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec le Burundi, je m'en suis occupé.
Et de avril 2001 à juin 2003, vous dirigez le ministère des droits humains. D'ailleurs, au mois de mai de la même année, vous organisez la Conférence nationale des droits de l'homme. Quel était l'apport de cette conférence par rapport aux droits de l'homme en RDC, quand nous savons que beaucoup d'organismes, tant nationaux qu'internationaux, ne cessent de tirer la sonnette d'alarme en cette matière?
Vous savez, ça a été un grand moment du tout premier gouvernement du président Joseph Kabila et de la vie nationale. Parce que je dois rappeler que ça a été la première fois, pratiquement, qu'il y a eu une rencontre nationale avec des délégués venant de toutes les provinces, y compris des provinces occupées du pays. Et ça a été toute une gymnastique de pouvoir les faire arriver à Kinshasa et les faire rentrer dans leur terroir d'origine. Alors, ce grand moment a permis la diffusion de la culture de droits de l'homme, surtout que ça avait été précédé par des conférences provinciales sur le droit de l'homme. Ça a permis de faire l'état de lieu, le diagnostic, et de faire des recommandations dans tout le secteur de la vie nationale pour l'amélioration des droits de l'homme. Et je pense que, en synergie avec les ONG de droits de l'homme, ça a été un grand départ et ça a été reconnu comme tel.
Mais est-ce qu'aujourd'hui le résultat de cette conférence sur terrain est quantifiable et palpable?
Oui, je pense, parce que lorsque les ONG de droits de l'homme, les représentants des institutions étatiques sont rentrés sur le terrain, et ils ont pu diffuser largement ce message. Et à l'occasion de cette conférence nationale des droits de l'homme, on avait élaboré la charte congolaise de droits de l'homme du peuple congolais. Et je dois vous dire qu'on retrouve les traces de cette charte congolaise, y compris dans la constitution actuelle.
Vous avez parlé de M. Laurent Désiré Kabila, avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme?
Je n'ai eu l'occasion de travailler avec lui que pendant quelques 7 mois, parce que j'arrive au gouvernement en août 2000 et il est assassiné en janvier 2001. Mais je me rappelle de lui comme d'un grand patriote qui a toujours voulu nous enseigner, comme il disait lui-même, à nous organiser, à compter sur nos propres forces, mais aussi d'un homme de grande simplicité et de proximité. Bah, je me souviens la première fois que j'ai eu à le rencontrer, à échanger avec lui, c'était à Alger, une rencontre prévue pour 10 minutes, nous sommes restés 30-40 minutes, et il était d'un grand naturel, il nous faisait rire, et il partageait tout simplement, et on oubliait même qu'on était en présence d'un chef de l'État.
Et en parlant de Mtumba Luaba, on ne saurait oublier le moment où vous avez été séquestré en Ituri. Racontez-nous un peu.
À Mandro, en Ituri, ouais. C'était fin août, début septembre 2002. Moi, je trouve que ça a été tout à fait normal, mais pas facile à vivre, parce que je rentrais de Bruxelles et de Paris, hôtel Méridien, je me retrouve à Kampala, hôtel Sheraton, aéroport de Bounia, et subitement, dans un petit village, Mandro, à 12 kilomètres de Bounia, avec comme seul lit un fauteuil avec comme fond une peau de vache, et ensuite pour se soulager un kikoso à l'extérieur. Alors vous voyez,
le décor était planté,
on est resté 4 jours sans se laver, s'essuyant seulement avec un petit mouchoir, mais je crois que c'est le prix à payer aussi pour le processus de pacification du pays. J'ai cru à cette cause, j'y crois toujours, et je ne regrette pas d'avoir vécu ce moment-là, ça faisait partie du processus.
Professeur Mtumba Luaba, certains auditeurs voudraient savoir quelle différence il y a entre les structures CONADER et UEPNDDR.
D'abord, je constate la difficulté quant à la prononciation. Conader se prononce plus facilement que PNDDR.
Et j'avoue que je ne suis pas le seul.
Non, partout où je suis passé, ça a été le cas. Cela correspond à une exigence de rupture et de continuité en même temps. Rupture, c'est qu'on avait affaire à une commission, maintenant c'est à une unité d'exécution du programme. Une commission, ça suppose une grande structure avec un grand nombre de personnels.
Avec un grand budget.
Un grand budget, tandis qu'une unité d'exécution, cela correspond à une structure beaucoup plus souple, plus légère, plus simple, plus adaptable. C'est ça la rupture. Mais la continuité, c'est que l'UEPNDDR est appelé à parachever ce que la CONADER avait commencé dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale. Nous voulons nous diriger vers une réinsertion sociale plus durable et également vers une réinsertion communautaire.
Yo marido ya di bala, ya tato sambay. Benga, benga, oh, benga, oh, benga. O balani, atandambo ya mbulate. O botoli na kemi, o kabida na nyo. Kana zangi bala bandi mokuya. Naloti bate kenga mungu na tipu tipu. Nanako bate keke ba ungu na zangi ba. Zoka jami, bolite bungizela. Sapudi mega so sama. Mega, mega, oh, mega, oh, mega. O balani, atandambo ya mbulate. O botoli na kemi, o kabida na nyo. Mega, mega, oh, mega, oh, mega. So barani, atanda boya mulate. O botoli na kemi, o kabida na nyo. Nana zazi bala bandi mokuya. Naloti bate kinga mo umu ya tipo tipo. Nana ko bate keke ba umu na zazi ba. Zoka kemi, moli kwe bugizela. Sapuni mega, to sama.
Radio Capi, grand témoin.
Elle a été ministre de la Condition féminine et famille du gouvernement de transition. Fabiola Faïda Mwangiloa est l'invitée de Grand Témoin. Actuellement, elle est présidente du conseil d'administration de l'ONG Action pour la participation de la femme au développement. Nous lui disons merci d'être venue.
Merci beaucoup.
Fabiola Faïda Mwangiloa, vous avez été ministre de la Condition féminine et famille du gouvernement de transition. Comment vous y arrivez?
Disons, c'est vraiment le fruit d'un travail, je peux le dire. Peut-être dans ma vie, on peut se poser la question, est-ce qu'il vous est arrivé un jour de penser être responsable de ce pays? J'ai dit oui. J'ai dit oui, c'est à travers une conviction ferme que j'avais depuis mon jeune âge et j'ai continué ainsi. Je me suis engagée vraiment pour le développement de la femme, surtout dans le milieu universitaire. Je parle là de l'université de Kisangani. Et voilà, finalement, je me suis engagée à la première guerre de libération de l'AFDEL. J'ai beaucoup travaillé et enfin je me suis engagée également au Rassemblement Congolais pour la démocratie, alors parti mouvement politico-militaire, et voilà, et qui m'a désigné, qui m'a proposé aux fonctions de ministre de la Condition féminine et famille.
Mais quelle leçon vous avez tirée de votre passage dans ce gouvernement de transition?
La grande leçon que j'ai tirée de ce ministère, c'est que lorsque vous êtes élevé en dignité, l'essentiel c'est de dire, je ne connais pas assez plus que les autres,
c'est de s'ouvrir aux autres, de vraiment leur apporter votre contribution, votre collaboration, et c'est ce qui a été vraiment le secret de ce, du peu qu'on a réalisé à ce ministère de la Condition féminine et famille. Et aussi, une autre leçon, c'est de dire, l'essentiel dans la vie, c'est d'aimer ce que vous êtes en train de faire. J'ai vraiment aimé mes fonctions, au-delà des difficultés que nous avons rencontrées. L'essentiel est qu'on avait la conviction qu'on doit nécessairement continuer à évoluer. Nous sommes là pour les femmes, surtout que c'est aussi un travail que je faisais dès mon jeune âge, comme je venais de le dire. Et voilà pourquoi la grande les sont vraiment sur le travail en synergie avec toutes les organisations, quelle que soit leur appartenance politique, sociale, et ça a été un grand succès. Je rends grâce à Dieu pour cela.
Vous venez d'évoquer quelques difficultés. Pouvez-vous nous en parler, les difficultés?
Effectivement, dans ce ministère, la grande difficulté tout au début est que c'était un ministère qui n'existait pas du tout. Et tout au début, pendant que les autres ministres, sitôt installés, étaient déjà dans leur bureau, mais le ministre que j'étais, de la Condition féminine, n'avait pas de bureau. J'ai dû travailler à l'hôtel pendant un mois et demi. C'était la grande difficulté. L'autre difficulté, c'est l'insuffisance de moyens. Par rapport au budget de l'État, ce ministère a moins d'1% du budget national. Comment est-ce que vous pouvez réaliser la mission qu'on vous a assignée avec un faible budget? Ça n'a pas été facile. Il a fallu développer d'autres mécanismes pour mobiliser les ressources. C'était une difficulté. Mais aussi, on ne peut pas oublier, c'était une période post-conflit où il y avait pas mal de suspicions. Il suffisait d'appeler quelqu'un et la personne se posait des questions. Est-ce qu'elle va pas me parler de la politique? Est-ce qu'elle va pas me, elle va pas me parler de son parti? Est-ce que trop de suspicions, mais il a fallu transcender tout cela et comprendre que l'heure a sonné, l'heure de réconciliation du travail bien fait, et je crois que parmi les difficultés, je peux d'abord citer celle-là.
Vous êtes membre fondateur de Caucus des femmes de la RDC pour la paix. C'est quoi cette association?
Oui, effectivement, avant l'étape de San Situ 1, les femmes congolaises en 2002, en février, s'étaient retrouvées pour la première fois, en tout cas, depuis que les conflits se sont développés dans notre pays. Nous nous sommes retrouvés, toutes les tendances, en tout cas confondues, à Nairobi, avec l'appui des agences des Nations Unies, dont l'UNIFEM et une autre ONG internationale des femmes Afrique Solidarité, et WOPA également, WOPA qui est une organisation qui est représentée ici. Donc, nous nous sommes retrouvés pour élaborer notre cahier des charges. C'est alors qu'est née l'idée du caucus des femmes congolaises, mais avec le temps, il a évolué. Aujourd'hui, nous avons maintenant le cadre de concertation de la femme congolaise qui est présidée par Madame la procureure Rose Mutombo.
Fabiola Saïda Mwangilwa, vous êtes également membre fondateur et présidente en exercice du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires pour la RDC. La question que l'on se pose, c'est qu'il y a beaucoup d'associations féminines, mais pour quels résultats sur terrain?
Bon, je crois que ce qui est plus important, c'est de comprendre que la femme congolaise est confrontée à beaucoup de difficultés et dans la recherche de la solution, le secret est le même. Plus vous êtes ensemble, plus vous pouvez faire face aux problèmes, aux difficultés qui sont les vôtres, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être des différentes sensibilités politiques et sociales et tout, mais par rapport à la question de la femme, en tout cas, là, il n'y a pas de divergence. La femme congolaise connaît beaucoup de difficultés et ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Bien avant le déclenchement des conflits armés, la femme congolaise faisait déjà face à beaucoup de difficultés.
En politique, vous êtes membre du Rassemblement congolais pour la démocratie, RC. Des partis de l'opposition. Vous avez postulé à la députation nationale.
Oui, effectivement.
Sans succès. Qu'est-ce qui n'avait pas marché?
Oui, vous savez que les élections, c'est une autre réalité. Je te tire franchement de ma base, mais vous savez qu'il y a plusieurs facteurs, en tout cas, qui ont concouru à l'échec, s'il faut le dire. Mais je dois avouer aussi qu'il devait y avoir les gagnants et les perdants. Dans ma circonscription électorale, il n'y avait que 4 sièges. Et nous étions plus de 120 candidats. Et moi, ici, je dois souligner c'est l'aspect. Vous savez que mon organisation politique, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, a été vraiment diabolisé par ses adversaires politiques et ça a été l'un des facteurs. Parce que si vous arrivez à Goma aujourd'hui, le milieu dans lequel j'ai évolué, vous arrivez dans les différentes associations que j'ai mis en place, pas mal d'associations, pas mal d'actions, de réalisations, mais une difficulté, on disait aux gens, si vous votez Madame Faïda, vous votez les Rwandais. Et c'était une confusion qu'on a mis dans la tête des gens. Et comme c'était une première expérience électorale, les gens croyaient qu'on allait les surveiller une fois dans l'isoloir. Alors, Et voilà, c'est ça la réalité. Mais je me dis, ce n'était pas seulement au niveau de la législation. Je m'étais également présentée comme candidate au Sénat lors des élections sénatoriales. Mais là aussi, j'ai échoué.
Radio Capine, grand témoin.
C'est l'un des pionniers de la bande dessinée classique en RDC. Baruti Kandolo Lileladi Barli Baruti est l'invité de Grand Témoin. Nous lui disons bienvenue.
Bonjour.
Barli Baruti, vous voyez le jour à Kisangani où vous faites des études d'humanité pédagogique. Pourquoi ce revirement vers la peinture?
D'abord, je suis né dans une famille d'artistes, donc la peinture ne m'a jamais quitté, donc je suis resté dans ce monde-là tout le temps. Mon père, mes frères, mes sœurs font de la peinture, et ce n'est que normal que je sois resté dans cette espèce de mare-là, dans ces vases-là.
Mais racontez-nous un peu l'histoire de la bande dessinée au Congo.
Bon, c'est une longue histoire. Je dirais que moi, je suis entré dans la bande dessinée comme on entre en professionnel. Enfin, vraiment, je suis d'une manière un peu automatique. Mais la bande dessinée au Congo, je ne suis pas historien, je ne pourrais pas les retracer, mais je donne mon avis en tant que tout simplement bédéiste et un amoureux des bandes dessinées. Pour moi, il y avait ces grands courants avec Mongita, qui était scénariste, qui était un grand homme de culture, et qui a fait aussi la bande dessinée. Il est intervenu dans certaines choses. On se souviendra par exemple de Mokwa Pamba, qui paraissait dans Antilope, déjà en 63. Et puis, il y a eu la grande vague des jeunes pour jeunes qui est arrivée. Bien sûr, avec des points avec nos grands frères tels que Mongo Hawaii Sissi, qui a fait pas mal de choses avec son personnage Bingo. Nous avons eu pas mal d'autres choses aussi, donc au niveau du groupe, enfin le groupe Salongo, mais le journal Salongo déjà à l'époque, avec Boyao.
Qui faisait les caricatures.
Qui faisait des caricatures dans Salongo, des caricatures sur le domaine plutôt sportif. Et puis, c'est vrai que c'est Jeune pour Jeune qui a révélé vraiment l'ampleur de la bande dessinée ici, avec Simonu Kombo, avec les Pamabilé, il y a eu des gens comme Simba Bati, ainsi de suite. Et puis bon, ben, nous sommes arrivés dans l'entretemps, on a lancé une nouvelle vague avec l'association Atria.
En 1986, Bob Demour vous accueille au studio Hergé. Hergé qui, nous le savons, est le père de Tintin, Milou, Haddock. C'est lui qui vous guide vers la grande famille de la BD franco-belge. Comment vous vivez ces moments?
Mais d'abord, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un des moments les plus marquants de ma vie. J'ai fréquenté l'ambassade de Belgique. Il y avait ce qu'on appelait le service culturel de l'ambassade. C'était le service d'information, mais ils ont mis un peu de la culture dedans. Avant, évidemment, que ça soit vraiment catégorisé et que maintenant, nous avons le centre de Bruxelles. Donc, il y avait ce service-là. Je suis allé là-bas et j'ai rencontré Bob Demour qui était venu pour faire une exposition sur la bande dessinée belge. On s'est rencontrés ici à Kinshasa. Et il a émis le vœu de vouloir me voir au studio Hergé. Hergé étant déjà mort, c'est lui qui était donc resté patron de ce studio-là, sur l'avenue Louise à Bruxelles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas.
Vous qui êtes l'un des pionniers de la bande dessinée classique en RDC, Barli Baruti, nous avons contacté quelqu'un pour vous. Il est en ligne et nous allons le laisser se présenter.
Merci à la Radio Capi pour l'invitation. Moi, c'est Cool Matopé. Je suis très 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 heureux d'entendre mon grand frère Barli Baruti.
Et Barli qui est très content, hein, Cool Matopé, il a esquissé un très beau sourire. Barli, vous avez quelque chose à dire à Cool?
Bon, ben, je pourrais dire tout simplement à Cool que c'est un disciple, si on peut dire comme ça. Certaines personnes diront que c'est prétentieux, mais on se connaît, donc il sait de quoi je parle. Mais c'est aussi un jeune qui est resté constant dans ce qu'il a voulu faire. Et depuis qu'il a commencé à faire son travail, il le fait très bien. Et partout où je vais, je cite son nom. Quand, par exemple, il interprète une de mes chansons, les gens croient que c'est par hasard. Eh bien non, c'est un frère.
Barli Baruti, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer un point. C'est que dans la bande dessinée Mouta et Mapeka,
oui,
la personne me disait, mais j'ai l'impression que Barli Baruti a dessiné Cool Matopé.
Mais oui, il y a un passage où je me suis dessiné, j'étais encore tout mince, et j'ai dessiné Cool.
Moi, je devrais donner un témoignage, je crois que je l'ai dit souvent, je répète aujourd'hui, parmi les premières personnes qui m'ont vu prendre le micro et chanter pour la première fois, il y a effectivement Barli Baruti, et parmi les tout premiers qui m'ont enseigné comment chanter dans un micro, comment je m'appelle, il jouait la guitare. Quand j'amenais un petit quelque chose qui ressemblait à un chant, c'est lui qui faisait les accords, qui me montrait comment chanter
dans la cave.
Donc c'est un grand frère et un professeur en même temps, et je suis fier de lui, quoi.
Akuli ya pon, banyan ni yo, sudi ni pon.